BFM Business présente...
Tous les jours, j'entends quoi ? De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Mais
j'ai dit qu'il y a un vrai souci, alors... il faut créer de l'emploi.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit.
Il suffit d'écouter BFM Business.
Voilà, magnifique.
Guillaume Paul, Good Evening Business.
Il est bientôt 18h, il est bientôt les 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, grand Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir, on a à nouveau un énième replâtrage, si l'on peut dire, de ma prime rénov, parce que le gouvernement, vous savez, voulait favoriser les rénovations globales. Ça n'a pas marché, en tout cas ce qui a été mis en place au 1er janvier n'a pas marché, donc marche arrière ce soir, on va voir ça avec Nathan Cocampo dans un instant. Nous sommes le vendredi 8 mars, c'est donc la journée internationale des droits de la femme. En France, en matière d'inégalité salariale, rien de neuf. Sous le soleil, on va voir ça aussi dans un instant. Avec les derniers chiffres de l'index professionnel sortis ce matin. On parlera de ça avec nos experts. On leur demandera aussi s'ils ont trouvé que Joe Biden avait mangé du lion, s'il avait marqué des points face à Donald Trump cette nuit sur le plan économique, à l'occasion de son discours sur l'état de l'Union. Et puis, il y a cette petite phrase ce matin de la patronne de la CFDT qui dit « On n'est pas parti pour gâcher la fête des Jeux Olympiques, simplement ». Il serait de bonne aloi, elle l'a dit en ces termes, ou presque, que quand même on prenne en compte certaines de nos revendications. Vous savez que la CGT et Force Ouvrière ont déjà déposé des préavis de grève dans la fonction publique pour l'été prochain. Tout ça plus bien autre chose, évidemment, on est ensemble jusqu'à 19h sur BFM Business. Très bonne soirée.
Good Evening Business, le journal.
Donc je le disais, ma prime rénov, nouveau replâtrage, si l'on peut dire. Bonsoir Nathan.
Bonsoir.
Parce que oui, on s'en souvient, au 1er janvier, le gouvernement avait mis fin à ce qu'on appelait les monogestes pour profiter du dispositif. Les professionnels avaient prévenu, bah oui, effectivement, c'était clairement une erreur, Nathan.
Oui, Christophe Béchu l'a reconnu lui-même devant les acteurs du secteur. Ce choix n'était pas le bon, Guillaume. La Fédération du bâtiment avait pourtant prévenu, cibler uniquement les rénovations complètes dans MaPrimeRénov va en décourager plus d'un à effectuer des travaux. Une rénovation complète, ça coûte cher, très cher, et les chiffres le montrent. En deux mois, les demandes pour MaPrimeRénov ont chuté de 40%. Retour en arrière, donc, assorti de nouvelles règles pour tenter à nouveau de relancer la machine et rattraper le retard pris après une année 2023 en dessous des attentes, avec un budget alloué qui n'avait pas été intégralement dépensé. Il restait 300 millions d'euros sur les 2,4 milliards consacrés au dispositif. Au rythme où l'on est, l'objectif des 140 000 rénovations majeures prévues cette année ne sera jamais atteint.
Bon, donc on revient en arrière, enfin on revient sur ce qui a été annoncé au 1er janvier. Du coup, la nouvelle version MaPrimeRénov 2024, ça va donner quoi, Nathan ?
Alors, retour donc des subventions monogestes. Et pour celle-ci, comme avant, il n'y aura pas de DPE obligatoire pour effectuer les travaux, à contrario des rénovations globales. Sachez qu'il n'y aura pas besoin non plus de recourir à mon accompagnateur Rénov. Ces derniers sont trop peu nombreux, 2800 à date sur le territoire. Alors, attention au calendrier. Les nouvelles règles seront publiées en début de semaine prochaine. Mais la Fédération du bâtiment s'inquiète déjà de la lenteur de ce retour en arrière qui s'amorce. On a déjà perdu deux mois. Il faut maintenant mettre à jour le système informatique de l'ANA, l'organisme gestionnaire de MaPrimeRénov. Une mise à jour qui prend du temps. Si la fédération fait pression, espère que tout sera prêt d'ici fin avril. Le gouvernement table plutôt sur le mois de mai, voire juin.
Voilà, nouveau replâtrage pour MaPrimeRénov, les professionnels qui étaient reçus donc par Christophe Béchu cet après-midi au siège du ministère de la Transition écologique. On en reviendra bien sûr avec nos experts tout à l'heure sur ce fabuleux sujet. Merci beaucoup Nathan. En France, nous sommes donc le 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Le gouvernement a donc présenté à cette occasion les derniers chiffres de l'index professionnel version 2023. Les chiffres montrent que les inégalités salariales stagnent dans le pays. 2% des entreprises qui ont communiqué sur le sujet ont eu la note maximale de 100 sur 100. Caroline Morisseau.
Seul bon point, les entreprises sont plus nombreuses à se conformer à leurs obligations légales. 77% ont publié l'index contre 72% à la même période l'an dernier. Pour le reste, peu de changements. La note moyenne s'élève à 88 sur 100, comme l'an dernier. Parmi les principaux points faibles, les rémunérations accordées au retour de congé maternité. 6% des entreprises ont obtenu zéro. Autre problème, près d'un tiers des entreprises ont moins de 2 femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations. Quant aux très mauvais élèves, leur niveau reste stable. 77 entreprises ont toujours moins de 75 sur 100 depuis plus de 4 ans et sont donc susceptibles d'être sanctionnées. Reste que dans les faits, ces sanctions sont rarement appliquées. Selon le Haut Conseil à l'égalité, il n'y a eu que 42 pénalités depuis la création de l'index il y a 5 ans. Autre critique encore, l'index se repose uniquement sur des comparaisons à temps de travail égal. Il ne tient pas compte des temps partiels qui concernent à 80% des femmes. Le gouvernement s'est engagé à rectifier le tir et a promis un index plus ambitieux et plus transparent d'ici début 2025.
Caroline Morisseau, on apprend que le parquet national financier a ouvert une enquête en France sur Altice pour des soupçons de corruption. Le groupe maison mère de SFR et de BFM Business est déjà visé par des investigations au Portugal pour la même infraction. L'enquête a été lancée en septembre 2023. Après l'arrestation par la police portugaise d'Armando Pereira, l'associé historique de Patrick Dary, le propriétaire d'Altis, précisément. Dans l'actualité, sinon, il y a cette grande question du moment pour les marchés. Quand la Banque Centrale Européenne va-t-elle recommencer à baisser ses taux d'intérêt ? Christine Lagarde nous avait préparé hier à une baisse pour cet été. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a été plus précis. Il dit que ça sera pour les printemps, donc pour les beaux jours. Écoutez.
Il me paraît très probable qu'il y ait une première baisse de taux au printemps. Je vous rappelle qu'en Europe comme ailleurs, le printemps, c'est une saison qui va d'avril jusqu'au 21 juin. Je crois qu'hier, il y a eu un point d'accord majeur, décisif, c'est que ces risques sont désormais équilibrés entre précipitation et crispation, et donc large consensus sur une baisse prochaine de taux. Après, il y a un point relativement mineur, c'est le calendrier précis de cette baisse de taux. J'ai donné une indication en termes de saison.
Voilà, François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France ce matin sur BFM Business. En attendant la baisse des taux, figurez-vous qu'on a un bel anniversaire. L'aéroport Roissy-Charles de Gaulle fête, mesdames, messieurs, ses 50 ans aujourd'hui. Ouais, il avait été inauguré le 8 mars 1974 par Pierre Messmer, alors Premier ministre. Roissy souvent décrié, mais qui est devenu incontestablement un hub international de premier plan. Jean-Baptiste Huette.
8 mars 1974, c'est l'inauguration de Roissy. Son célèbre terminal 1 est rapidement surnommé le Camembert. Cet unique bâtiment circulaire dispose à l'époque d'une capacité de 10 millions de passagers par an. L'aéroport a connu les belles heures de l'aviation décomplexée. Le Boeing 747, le Concorde, l'A380. Roissy, c'est aujourd'hui la première porte d'entrée sur le territoire français. 8 terminaux, plus de 67 millions de passagers par an. C'est aussi devenu un hub international incontournable. Paris-Charles de Gaulle a été élu l'an dernier meilleur aéroport en Europe et se classe même à la 5e place dans le top 100 des meilleurs aéroports mondiaux. Une incroyable performance après des années pourtant très compliquées. Covid, contrôle aux frontières, retard bagages, accès difficile. Il faut dire que le gestionnaire a mis les bouchées doubles, boutiques, terminaux, signalétiques, nombreuses rénovations ces dernières années. Et pourtant, c'est maintenant que le plus dur commence, puisqu'il s'agit de préparer l'avenir et de convertir Roissy en un aéroport décarboné. Fuel synthétique, hydrogène, électricité, biodiversité, ce sont des milliards d'euros qu'il va falloir trouver dans les années qui viennent.
Voilà, Roissy Charles de Gaulle qui fête ses 50 ans aujourd'hui. Jean-Baptiste Huette avec nous sur BFM Business. On va partir à Valenciennes, donné pour terminer. Valenciennes, où vient de se terminer la quinzaine dédiée au tourisme industriel. C'est un événement qui permet au grand public de visiter les principales usines de la région. Toyota, évidemment, pour ne citer que celle-là. C'était la 6e édition. Apparemment, il y avait de plus en plus de monde cette année. Reportage d'Alexandra Paget.
Rendez-vous un matin pluvieux pour la visite de PPG. Ce groupe américain a repris les anciennes huileries de Valenciennes et produit des peintures anticorrosives pour l'industrie automobile et aéronautique notamment, pour les carrosseries de voitures ou les fuselages d'avions. Un processus qui suscite des questions parmi les visiteurs.
Comment sont fabriqués nos produits et aussi comment ça se termine, surtout les peintures et les résines.
Philippe Boudaine dirige l'usine d'où sont sorties plus de 66 000 tonnes de peinture et de résine l'année dernière. Surpris par le succès remporté par la visite, il espère que cet engouement fera des émules.
On a des difficultés à recruter des filles, des femmes dans les ateliers. C'est aussi appeler des vocations à l'entourage des personnes qui vont visiter.
Cette année, ce sont 37 usines qui ouvrent leurs portes au grand public à Valenciennes. Un record selon Vincent Simonet, directeur de l'Office de tourisme.
C'est un tourisme qui est en voie de développement et la France est un peu championne de ce tourisme de savoir-faire et qui ouvre ses usines. Nous, on a une vraie carte à jouer sur ce secteur-là. On a des grosses entreprises et on a surtout une reconnaissance, une image qui est plutôt industrielle que touristique et on a voulu réconcilier les deux.
En 2022, 20 millions de visiteurs ont été accueillis dans 3500 entreprises en France.
Voilà, Valenciennes, la grande quinzaine dédiée au tourisme industriel. Reportage d'Alexandra Paget pour BFM Business. Il est 18h08. On va sur les marchés, retrouver Étienne Braque depuis Euronext à la Défense. Bonsoir Étienne, petite hausse pour le CAC 40 qui est installé, ça y est, au-dessus des 8000 points. On est bien là Étienne, hein ?
Et qui a inscrit un nouveau record, 8028 points ce soir à la clôture. C'est une hausse de 0,15% avec des marchés qui ont été rassurés après l'emploi américain. C'était la statistique de la semaine. Et à 14h30, eh bien, nous avons appris que l'inflation salariale ralentissait aux États-Unis, que le taux de chômage se rapprochait petit à petit des 4%, 3,9%. Donc ça montre que l'économie américaine ralentit. Alors bon, très légèrement, mais ça rassure les investisseurs qui attendent toujours des baisses de taux dès cet été de la part de Jerome Powell, de la Fed. Donc vous avez l'obligataire qui se détend, le marché action qui repart de l'avant. Et puis alors, il y a certes un record sur le CAC 40 aujourd'hui, mais vous avez un record sur l'once d'or qui est à la porte des 2 200 $, 2 187 $. Record également pour le Bitcoin qui a franchi pour la première fois les 70 000 $. Bref, des records partout aujourd'hui. Alors que le CAC 40 a clôturé hier soir sa saison de résultats 2023 avec Vivendi. C'est d'ailleurs la plus forte baisse du CAC 40 avec un titre qui perd un peu plus de 2%. Et puis alors, une grosse baisse aujourd'hui, c'est HelloFresh. Vous savez, qui est spécialisé dans la livraison de kits des repas, qui perd 40% à Francfort, qui fait un gros avertissement sur résultats suite à l'inflation.
Bon, puis on regarde Wall Street, là, Étienne, qui réagit pas très fortement aux chiffres qui sont tombés cet après-midi aux États-Unis.
Une fois de plus, Wall Street est très dépendant de Nvidia et aujourd'hui la valeur perd 4%. Des grosses prises de bénéfices avant le week-end. Nvidia qui sort de 6 séances dans le vert, qui a gagné plus de 10% depuis lundi. Et donc forcément, Nvidia qui perd 4%, ça fait baisser le Nasdaq, moins 0,5%. À l'inverse, le Dow Jones progresse de 0,1%. Et le S&P qui était sur un record tout à l'heure, perd désormais 0,2% à 5144 points. Néanmoins, les trois indices américains clôturent une semaine dans le vert, à l'exception de l'indice Dow Jones qui recule très légèrement.
Merci beaucoup Étienne Braque avec nous depuis Euronext à la Défense à l'issue d'une semaine riche en événements. Évidemment, ce nouveau record à la Bourse de Paris, le CAC 40 désormais installé au-dessus des 8000 points. 8028 donc effectivement ce soir à la clôture. 18h10, on vient avec nos experts dans un instant. Énormément de choses à voir ce soir jusqu'à 19h. Énième replâtrage du côté de MaPrimeRénov. La grande question de savoir quand on va baisser les taux dans la zone euro. Et puis, entre autres sujets, Joe Biden, cette nuit, qui a mangé du lion, très offensif sur l'économie. Est-ce qu'il a marqué des points, sur ce terrain face à Donald Trump? On pose la question à nos experts. On leur en pose plein, d'ailleurs, jusqu'à 19h. À tout de suite.
Good evening business, les experts du soir.
Allez, 18h13, ils sont là jusqu'à 19h, les experts du soir, pour refaire l'actu. Bien sûr, Samuel Botton est avec nous. Bonsoir Samuel. Bonsoir. Expert en communication, François Girolf. Bonsoir François.
Bonsoir.
Économiste à l'OFCE. Puis c'est Xavier Patrolin, le président d'Albatros Capital, qui va nous rejoindre dans un instant. Pour commenter, alors on a beaucoup de choses ce soir encore à commencer. C'est l'info, effectivement, de cette fin d'après-midi. Nouveau rafistolage. Voilà, nouveau... édition, émission, épisode, MaPrimeRénov, voilà, une nouvelle fois rafistolé. Parce que les chiffres sont tombés hier, vous savez, depuis le début de l'année, le nombre de dossiers de demande de subvention avait chuté de 40%. Vous savez qu'on avait modifié le dispositif pour favoriser les rénovations globales. Ça n'a pas marché, donc on revient au monogeste. Ça vient d'être confirmé aux professionnels du bâtiment par le ministre Christophe Béchu. Écoutez ce que disait ce matin le patron de la CAPEB, Jean-Christophe Repon, qui défend les intérêts des petits artisans. C'était avant la réunion cet après-midi, mais déjà, il planter assez bien le décor ambiant, finalement.
Ça fait des années, ça fait une dizaine d'années qu'on dit qu'il faut à peu près donner le marché aux artisans. C'est-à-dire que actuellement le dossier administratif est d'une complexité rare et les artisans s'en désintéressent. Et on a de moins en moins d'entreprises dites qualifiées pour accéder à ce marché, le fameux marché RGE. On espère, à 14h avec M. Béchu, M. Gasbarian, avoir un arbitrage en disant prouvons la qualité de l'entreprise sur le chantier plutôt qu'un dossier administratif assez long. Donc on va validerer les acquis et l'expérience des entreprises. C'est dans le sens dans lequel on essaie d'arbitrer. Donc un maximum d'entreprises. Et puis derrière, la rénovation dite globale d'ampleur, comme vous voulez, performante, qui est vertueuse et plutôt bonne, elle n'est pas opérationnelle sur le marché.
Donc ça, c'est ce qu'il disait ce matin le patron de la CAPEB, il a eu gain de cause, hein, puisque les annonces ont été faites tout à l'heure. Qu'est-ce qui cloche avec ce dispositif, au-delà du fait qu'il est complexe, qu'il n'y a pas d'argent, à moins que j'ai tout dit d'ores et déjà, finalement, Samuel.
C'est l'instabilité. L'instabilité permanente, le fait qu'on revienne sans cesse sur ce projet. Alors après, on peut essayer de le faire corréler avec le pouvoir d'achat des Français, donc moins de fonds qui sont alloués à la rénovation, et là, ça devient de plus en plus complexe. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les dérives qu'il peut y avoir du fait de l'absence de certification en amont et plutôt après. Ça ouvre les portes à la fraude, et c'est aussi la crainte des différents artisans. Et puis après, sur les chiffres, évidemment, je pense qu'on aura beaucoup de mal à atteindre l'objectif des 140 000. Je pense qu'il y a aussi une question de pédagogie, c'est-à-dire on est dans une incompréhension totale, je pense même de la part des politiques et surtout du côté des consommateurs.
Oui.
Et je disais une phrase dans l'article de RMC en préparant l'émission, où on résumait ça comme ça. Il y a deux catégories de personnes dans cette problématique. Il y a ceux qui finalement ont les moyens de faire leurs travaux et ne s'intéressent même pas à la prime rénov et aux simulations et vont faire leurs travaux tout de go. Et après, vous avez les classes populaires, classes moyennes, qui, elles, ont peur de la complexité que ça peut amener. Il y a aussi un problème de confiance qui est redondant sur cette problématique, et forcément, ça nous amène à des situations comme ça. Par contre, ce qu'on peut souligner, c'est que le gouvernement a admis une erreur sur ce sujet particulièrement.
Otamo est à moitié pardonné, c'est ça?
Exactement, et puis on essaye de réajuster, mais je ne suis pas sûr que ce soit si simple.
Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas politiquement à penser comme il se doit ce dispositif, François Girol, quand même? C'est 10 fois 11 fois peut-être qu'on le compromet.
Oui, qu'on le change, MaPrimeRénov', il y a aussi le diagnostic de performance énergétique qui est très lié à MaPrimeRénov' et qui est modifié un petit peu, enfin qui vient d'être modifié. Donc c'est effectivement c'est la question de la politique de la rénovation énergétique en France qui est très compliquée, parce que je pense qu'on n'a pas bien défini quels étaient les objectifs.
Oui.
À mon avis, les objectifs, ça devrait être clairement de réduire les émissions de CO2. Et si les objectifs c'est ça, faut faire très attention, parce qu'en France on a une électricité quand même qui est relativement décarbonée, notamment par rapport à nos partenaires européens, et donc rénover des logements chauffés à l'électricité, ça vaut moins le coup, par exemple, que de rénover des logements qui sont chauffés au gaz ou au fioul. Or aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire on incite la rénovation des logements à l'électricité, puisque vous savez peut-être, il y a ce qu'on appelle un coefficient d'énergie primaire à 2,3, qui fait que si vous dépensez l'électricité, on va multiplier cette dépense et cette consommation d'énergie par 2,3. Donc en fait, on défavorise le chauffage à l'électricité. Ce qui fait qu'on va rénover en priorité les logements qui sont chauffés à l'électrique et donc qui émettent une quantité relativement faible de CO2. Donc il y a ce premier problème. Ensuite, on ne sait pas vraiment si aussi on veut lutter contre la précarité énergétique. Oui. Et donc, si on veut diminuer effectivement les factures énergétiques. Mais dans ce cas, là encore, il faut faire un petit peu attention. Et les travaux, souvent, les gens sont très déçus par l'efficacité des travaux. Les artisans ne s'engagent pas, en fait, sur l'efficacité des travaux qu'ils sont en train de faire. Et donc, très souvent, les gens sont très déçus. Le diagnostic de performance énergétique surestime les gains, ça a été très, très, très bien montré par le Conseil d'analyse économique, surestime les gains qu'on obtient des rénovations énergétiques.
Donc, la rénovation globale, de toute façon...
Donc, ça coûte très cher. Enfin, les gens peuvent dépenser sur une rénovation globale, ça peut coûter 70 000 euros pour un appartement avant d'économiser de l'énergie à l'équivalent de 70 000 euros. Les économistes généralement aiment bien dire quel est le coût de une tonne de CO2 évitée. Et ben, je peux vous dire que via la rénovation énergétique, il est très élevé.
Est-ce qu'on n'est pas un peu schizo, Xavier, avec ce dispositif, alors qu'on essaie de rendre accessible au plus grand nombre, tout en le rabotant d'un milliard, on l'a encore vu il y a une semaine. Où est-ce qu'on va finalement? Ça dit beaucoup de choses. On ne sait pas où on va finalement avec ce machin, quoi.
Mais je crois que c'est le problème de la conduite de ce qu'on appelle dans le management des entreprises de la transition. Et c'est très compliqué à l'échelle d'un pays. Et donc on ne sait pas correctement cibler. Mais moi je crois surtout le point de cœur, c'est qu'on n'a pas les moyens, ni au niveau de l'État, ni au niveau des particuliers. C'est une toute petite tranche qui peut faire la transition et faire ces changements. Une grande partie de la population, et a fortiori les classes populaires, ceux qui ont des revenus très faibles, eux sortent du marché. J'ai une petite anecdote à vous raconter. Vous savez, on a le problème du logement social. Bon, le problème du logement social, il y a très peu de construction neuve actuellement. Mais essentiellement, les sociétés, les 500 ou 550 sociétés HLM à travers le territoire, actuellement, font beaucoup de conversions pour diminuer le vecteur thermique. Et ce qu'elles disent, c'est que ça détruit leur base de fonds propres. Pourquoi ? Parce qu'elles investissent dans un appartement. Du point de vue thermique, c'est très bien. Du point de vue des émissions CO2, c'est très bien. Mais du point de vue du loyer, vous ne récupérez rien. Donc, elles investissent pour la transition énergétique, ce qui est bien pour la planète, hein, c'est un objectif collectif, mais elles ne peuvent pas transformer l'investissement qu'elles ont fait en cash flow additionnel. Et ça, ça va être un problème que vous allez trouver progressivement. C'est-à-dire, au début, vous avez les propriétaires ou multipropriétaires qui ont des revenus aisés, qui ont un niveau de vie élevé, qui peuvent faire ce type d'investissement. Ils peuvent s'y retrouver. Mais il y a une grande part du marché immobilier. Alors, il faudra segmenter locatif-propriétaire.
Oui.
Mais en locatif, qui ne peut pas faire ce... Même avec des aides, même avec des subventions, il faudrait que l'État paye intégralement les frais.
Donc, ça ne va pas inciter à construire.
C'est voilà. Donc, le seul moyen, là, dans le dispositif, qu'est-ce qui a bugué de MaPrimeRénov', c'est qu'on a voulu faire une rénovation complète.
Oui.
Non, ce qu'il faut faire, c'est une rénovation... Et là, il y a une conduite, et ça, c'est compliqué. C'est petit morceau par petit morceau.
Les monogestes, les fameux monogestes.
Pour qu'elles soient solvables pour un foyer qui a des revenus modestes. Là, ça peut coller. Mais alors après, on va buter sur ce que disait Samuel, c'est-à-dire sur... Bah, y a les margoulins qui vont se présenter et tout ça.
Ça
mais on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, de toute façon. Mais moi, plus généralement, je pense que la rénovation énergétique, c'est quelque chose qui devrait être conduit de manière, comment dirais-je, avec beaucoup d'expérimentation préalable.
Oui.
Or là, on voit des dispositifs
on s'est lancé avec
des enveloppes budgétaires et avec des histoires de normes entre le DPE et... Et c'est un enchevêtrement, c'est-à-dire aussi bien les professionnels de la réhabilitation que les particuliers n'y comprennent plus rien.
Oui.
Donc, il y a un moment, il faut que... Et ce petit problème, il va se décliner au niveau de toute la société sur plein d'autres dimensions. Donc, on a intérêt à profiter de cette expérience pour avoir une approche beaucoup plus pragmatique et faire ce qu'on appelle la conduite de la transition. Ça, et c'est pas une chose aisée. Hein. Je donne pas de leçons là.
Ça plus le manque de professionnels agréés, comme vous le disiez, et de professionnels compétents. Voilà, parle.
Ouais, mais c'est le gros sujet du moment. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que si on est allé vers les rénovations globales, c'est parce qu'il y avait eu notamment un rapport de l'inspection des finances qui avait discuté du monogeste et qui avait dit que, en général, c'était assez peu efficace.
Peu efficace, mais
donc,
oui, mais...
Et si vous dites que c'est pas rentable...
Ouais, comme dit Xavier, ça coûte, voilà.
Oui, mais tout à fait, ça coûte. Mais en même temps, si on n'arrive pas à récupérer sur le loyer les économies d'énergie, c'est éventuellement que ces économies d'énergie sont pas si importantes que ça.
Oui.
Et si elles sont pas si importantes que ça, est-ce qu'on est sûr qu'on va diminuer tant que ça les émissions de CO2?
Samuel,
je pense qu'il faut aussi appréhender ça sous la question de la mesure. Si on prend par exemple toutes les installations sur des domiciles de panneaux solaires photovoltaïques, toute la question c'est combien de temps est-ce qu'il faut pour amortir ce type d'investissement? Et en moyenne, c'est entre 15 et 20 ans. Le problème, c'est tous les distributeurs, il n'y en a aucun ou très peu, je pense qu'ils doivent être deux ou trois aujourd'hui dans toute la France, à proposer des applications qui permettent à l'usager d'optimiser sa consommation et de comprendre comment faire fonctionner son système. Donc on en revient systématiquement au problème de pédagogie et surtout d'utilisation. Et après, l'autre point qui est important et qu'il faut ressouligner, c'est le manque de main-d'œuvre.
Bien sûr, mais c'est ça le problème.
Total, on n'arrive plus à suivre, et c'est aussi ce qui explique la défaillance aujourd'hui. Quand vous allez pour faire des travaux de rénovation, mais quel qu'il soit, on peut sortir de la question énergétique, il y a une rupture de confiance totale, mais ça date pas d'hier.
Non, il y a un problème de main-d'œuvre. Oui, c'est
ça. Mais raison supplémentaire, peut-être, pour se focaliser sur les rénovations les plus utiles et les plus efficaces en termes de CO2.
Voilà. Là, on va suggérer notamment les logements classés G, vous savez, les classements qui pourraient ne plus être reloués en l'état.
Mais en fait, vous avez des logements électriques, chauffés à l'électricité, qui sont G ou F, qui sont considérés comme des passoires thermiques, qui sont relativement bien isolés, qui sont juste des surfaces assez petites. Et qui, du coup, dû à cet effet x2,3, apparaissent comme des passoires thermiques. Donc moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on met aujourd'hui l'effort, potentiellement, sur des logements dont la rénovation ne va pas avoir tant d'effet que ça sur la rénovation énergétique.
Bien, très vite, Xavier. Ouais,
très vite. Ce que dit François est très important, parce qu'il y a l'efficacité des politiques de transition, et il faudra les mesurer, puisqu'on est dans une période d'économie budgétaire, il faudra les mesurer à l'aune de l'économie qu'on fait en son deux. Autre point sur ce qu'a dit Samuel, la détention d'un bien immobilier en France, je crois en moyenne, c'est 8 à 9 ans. Donc si tu amortis un investissement sur 15 à 20 ans, alors que la moyenne de détention, alors c'est peut-être un peu en train de changer avec les prix de l'immobilier.
C'est pas le premier chiffre. Hein,
pas incité,
et de 8 à 9 ans, ça pose un petit problème en termes de projection.
Hein. MaPrimeRénov', voilà, nouveau rabibochage aujourd'hui, nouveau replâtrage. Écoutons François Villeroy de Gallo, qui était ce matin sur BFM Business, avec hier Christine Lagarde avait dit, l'inflation ralentit plus vite que prévu, c'est peut-être pour bientôt. C'était ça un peu le message entre les lignes. François Villeroy de Gallo nous dit, c'est pour le printemps, hein, pour les beaux jours, écoutez.
Il me paraît très probable qu'il y ait une première baisse de taux au printemps. Je vous rappelle qu'en Europe comme ailleurs, le printemps, c'est une saison qui va d'avril jusqu'au 21 juin. Je crois qu'hier, il y a eu un point d'accord majeur, décisif, c'est que ces risques sont désormais équilibrés entre précipitation et crispation, et donc large consensus sur une baisse prochaine de taux. Après, il y a un point relativement mineur, c'est le calendrier précis de cette baisse de taux. J'ai donné une indication en termes de saison.
D'avril à juin, hein, c'est le printemps, effectivement. D'un mot, Xavier, qu'est-ce qui leur manque pour dégainer la baisse
Ce qui leur manque, c'est la certitude que l'inflation corps, c'est-à-dire hors énergie et alimentation va bien continuer à refluer. Ouais. Il y a trois blocs, au fond, pour comprendre le phénomène énergétique. Le phénomène inflationniste, il y a le premier bloc, qui est le bloc énergétique. Les prix du pétrole, prix du gaz, électricité, boum. Après, il y a les produits industriels. Ça diffuse. Et puis après, il y a le bloc des services. Le premier bloc et le deuxième bloc sont en train de se résorber. Les régimes d'inflation sont en train de se normaliser. C'est vrai aux États-Unis comme en Europe. Par contre, le troisième bloc,
les services,
le bloc des services, à très forte intensité salariale, humaine, lui pose question. Et au fond, ce qu'attendent une grande partie des gouverneurs de la BCE, c'est les négociations salariales. Mmh. Et ce qui était très important dans la conférence de presse de Christine Lagarde hier, c'est qu'elle a mentionné deux critères au fond. L'accord inflation, là, tout le monde la suit. Mais elle a mentionné le niveau de marge des entreprises et les évolutions salariales. Ce qu'elle espère, ce qu'elle commence à dire depuis plusieurs semaines, c'est que normalement, le niveau de marge des entreprises doit permettre aux entreprises de céder du point de vue salarial tout en érodant leur marge. C'est important, parce que si elles n'érodent pas leur marge, elles répercutent les hausses de salaire sur les prix, et donc là, elles remettent une ressucée sur les prix des services. Donc c'est ça
qu'on attend de voir.
On peut très bien imaginer qu'on est rentré dans un scénario d'ondulation de l'inflation dite corps, c'est-à-dire hors énergie, hors alimentaire, que ça reste stationnaire sur un niveau plus élevé que les objectifs de moyen terme. C'est pas ce qu'a donné le bureau des économistes de la BCE, puisqu'il prévoit une régulation. Mais je pense que du côté des gouverneurs, entre les faucons, les colombes, il y a probablement aujourd'hui un débat. Et ce débat n'est pas tranché. Et donc je trouve intéressant la pause.
Et ça, on va être fixé là-dessus.
Je pense qu'on sera fixé. Moi, je vois pas de baisse des taux. Là, je trouve que Villeroy de Gallo s'avance un petit peu. Je pense qu'on ne verra pas de baisse des taux avant juin. Il y a encore deux réunions.
Beaucoup évoquent juin déjà.
L'écartement des réunions de la BCE, six semaines. Donc dans six semaines, on sera donc début ou mi-avril.
Ouais.
On aura les dernières données dont on disposera, sera au mieux des indicateurs flash sur mars. Ça ne sera pas suffisant. Donc il faut reporter de six semaines, douze semaines par rapport à aujourd'hui. Donc ça nous reporte à mi-juin. Et là, on aura des stats sur février, mars, avril et flash sur mai. Et donc là, on pourra probablement prendre
les marchés,
une décision.
Les marchés semblent acheter, juin, ça leur va.
Oui, parce que le discours, au-delà du discours de Christine Lagarde, ce qui était important, c'est les révisions.
Oui.
On a des révisions d'inflation et on avait une normalisation aussi bien sur l'inflation IPCH et l'inflation core. C'est-à-dire tout se rapprochait de 2 à horizon 2025-2026. Ça a rassuré les marchés.
François, vous achetez une baisse des taux en juin là
Oui, c'est ce qu'il semble nous dire. Oui, c'est, puisqu'il nous dit en juin, il ne veut pas nous dire si ça va être celui d'avril ou celui de juin. Donc on en déduit effectivement que ça va être celui de juin. Mais effectivement, moi je pense que il fait un bon mot sur ce sujet, mais c'est quand même un petit peu sérieux ce qui se passe en zone euro. Le ralentissement est très rapide, pour dire un truc un petit peu complexe, et donc du coup moi j'aurais envie de voir une baisse de taux en avril, mais c'est vrai que là il nous
parce
dit...
que vous dites que ça a déjà fait trop de dégâts tout
ça fait déjà trop de dégâts. Okay. On avait un problème industriel, énergétique, on rajoute un problème de la construction. Est-ce que c'était bien nécessaire? Moi je pense pas, et l'inflation sous-jacente, c'est normal. normal que les salaires rattrapent un petit peu. Enfin, je veux dire, les salaires ont quand même beaucoup perdu de terrain par rapport à l'inflation. Donc, ça me choque pas qu'il y ait une augmentation du prix des services. Il y a aussi des choses qui sont indexées. C'est pas totalement choquant de voir l'inflation sous-jacente augmenter.
Samuel Botton.
Très rapidement, est-ce que la BCE mène une politique efficace? Alors, moi, il y a deux déclarations qui m'ont interpellé. La première, c'est le terme maladie soignée. C'est au moins discutable du point de vue de la France à minima. Et la BCE qui est confiante pour ramener l'inflation à 2% d'ici 2025, la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que les ménages tiendront jusque-là? Et après, ben, pour recouper ce que disait François-Xavier, tout est question de timing sur la suite des événements. Et il y a deux mantras du côté de la BCE. C'est attention à la précipitation, parce que baisser les taux trop vite, on risque de manquer les cibles. Et derrière, la crispation, agir trop tard, donc peser sur l'activité. Et ben forcément, on arrive à une posture de gradualisme. Voilà.
Bon, juin, alors voilà. Peut-être que les marchés ont déjà intégré ça d'ores et déjà. On verra évidemment ce que nous diront les banquiers centraux.
Très vite. Ouais. Ce qu'il faut voir, c'est que du point de vue de la BCE, des gouverneurs de la BCE, ils anticipent justement les hausses de salaires supérieures au régime d'inflation. Donc, ils anticipent un gain de pouvoir d'achat globalement au niveau de la zone euro et donc une stimulation de la demande interne. Donc, au fond, le creux conjoncturel pour eux, même s'il y a eu des révisions du côté allemand et français, le creux conjoncturel, on est plutôt en train de le passer et on devrait avoir une amélioration tendancielle, s'il n'y a pas un nouveau choc sur les matières premières, on devrait avoir une part différentielle entre le niveau d'inflation et les hausses de salaire. Donc, gain de pouvoir d'achat veut dire consommation additionnelle et stimulation modérée, hein, c'est pas booming, mais stimulation modérée sur la demande interne. Donc, du point de vue de la BCE, il faut surtout se précipiter dans la lenteur, c'est-à-dire ne pas aller trop vite parce qu'on ne sait jamais.
Juste très rapidement, François, il y a un facteur dont on n'a pas parlé, c'est la Fed. Et je pense que si...
Là, c'est plus compliqué apparemment.
Et oui, mais du coup, si la Banque Centrale commence à baisser les taux avant la Fed, là, ce serait quelque chose d'inhabituel et de courageux. Parce qu'en général, la BCE suit plutôt la Fed. Donc je me demande si la BCE n'est pas en train d'attendre la Fed aussi.
Compliqué comme métier, banquier central. On ne découvre pas ça aujourd'hui, mais ça se confirme. Allez, 18h32, on revient dans un instant. Bah, justement, on parlait de la Fed, on va parler de Joe Biden, qui avait mangé du lion cette nuit. Je ne sais pas si vous avez écouté ou regardé le discours sur l'état de l'Union. Il a beaucoup tapé sur Donald Trump et puis il a été assez affable sur son bilan économique. Bon, on en parle dans un instant. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 18h34, ils sont là jusqu'à 19h, nos experts. Samuel Botton, François Girol Félag, Xavier Patrolin est là. Joe Biden, qui n'est pas là, mais on va l'écouter. Et manger du lion la nuit dernière. Discours sur l'état de l'Union qui a duré un peu plus d'une heure. Il a beaucoup parlé de l'Ukraine, vous allez me dire, on pourrait me dire ce que vous en avez pensé. Mais surtout, alors, il a été dithyrambique sur son bilan économique. Écoutez le président américain.
J'ai hérité d'une économie qui était au bord du gouffre et maintenant notre économie est littéralement enviée par le monde entier. 15 millions d'emplois ont été créés en 3 ans, c'est un record. Et le taux de chômage est au plus bas depuis 50 ans.
A 50-year low.
Qui a dit que nous ne pouvons pas être la capitale mondiale de l'industrie? Nous le sommes et nous le serons.
We are, we will.
Est-ce que ça imprime franchement l'état de l'économie aujourd'hui, les créations de poches chez l'électeur américain?
Non. Non, ça n'est. Je l'avais déjà mentionné il y a quelque temps. Non. Non, tout simplement parce qu'il y a 5-6 millions d'Américains qui sont sortis définitivement du marché du travail. C'est-à-dire que ce taux de chômage est bon, mais avec un taux de participation qui est 100 à 120. J'ai pas regardé, les statistiques sont sorties il y a 14 jours, on a regardé une partie, mais pas tout. Le taux de participation est plus faible qu'il ne l'était pré-Covid. Donc, il y a des gens qui sont sortis définitivement du marché du travail. Et c'est pas des baby-boomers qui partent à la retraite, c'est des gens qui sont capables de travailler. Donc ceux-là, le sentiment qu'ils ont quand ils écoutent Joe Biden, c'est pas du tout celui des statisticiens ou des économistes qui regardent le taux de chômage. Le taux de chômage, de toute façon, c'est une variable, d'accord? Il faut la croiser avec d'autres dimensions.
Le taux de chômage qui a monté 3,9 aujourd'hui, voilà, 3,7 le mois dernier. Voilà.
Et d'ailleurs, on a ce paradoxe aujourd'hui qui fait qu'on a un la rencontre entre l'offre et la demande d'emploi reste toujours pénurique.
Ouais.
Hein, et pour autant, on a 5 millions d'Américains qui sont sortis du marché du travail. C'est-à-dire qu'un chômeur rencontre, la stat de cet après-midi, c'est 1,4 offres d'emploi. Sur les 20-30 dernières années, c'était 0,5. Donc, normalement, un chômeur, il ouvre la porte d'une agence et il trouve un job. Et non, parce que pour trouver un job, il faut pouvoir se déplacer, acheter une maison, louer la maison. évidemment, the last but not the least, il faut avoir la formation qui va avec. Oui. Et donc, d'une certaine façon, les Américains n'ont pas du tout cette perception-là. L'électorat américain, lui, à près de 60%, il a une perception négative de l'économie. Alors après, on a cette divergence entre le ressenti et les statistiques. Mais ça, c'est un vrai défi pour Joe Biden.
Samuel, comment vous l'avez trouvé, Joe Biden, la nuit dernière?
Discours de campagne.
Ouais,
il est lancé, alors ouais. Après... bon. Ouais. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qui a été dit. Au moins, mettre à sa décharge le fait que 4 ans, c'est relativement court. Maintenant, si on se projette sur les prochains mois, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on est, on va avoir un duel de l'élu par défaut face au chaos choisi. Et je ne suis pas sûr que les États-Unis en sortent gagnants. Il y a un point quand même qui m'a interpellé, parce que venant d'un État qui est chantre de l'hyperconsommation, c'est le focus qu'il a fait sur l'industrie agroalimentaire et la shrinkflation avec justement les baisses de quantité et des prix toujours plus élevés. Je m'attendais pas forcément à ça.
Ça marche.
Et il y a deux points qu'il a oubliés. Le premier, c'est que qui est corrélé finalement à la inflation, c'est que les Américains souffrent clairement de cette inflation et des prix élevés. Et la deuxième, ça rejoint finalement ce que disait Xavier, c'est la question de l'accessibilité au logement. Ouais. Et j'aurais même rajouté la question des véhicules, parce qu'aujourd'hui, je pense que les transports publics aux États-Unis ne sont pas les plus développés du monde. Donc on est dans un état où effectivement avoir un véhicule, c'est important pour tout type de démarche et encore plus pour avoir un accès à l'emploi. Je suis pas sûr que la population soit attentive à ce qu'il ait pu dire. Et à la défense de son bilan, parce que finalement, et comme dans d'autres pays, et peut-être même aussi en France, on n'est pas sur ce type de considération, on est sur des considérations du quotidien, on est sur des considérations de l'instantané, du tout de suite, et on est un peu à côté. Après, sur le reste, il joue sa partition comme il a à la jouer, il sait qu'il a 6 mois de latence avant la prochaine campagne qui arrive, et que ça va être très difficile pour lui, parce qu'il a, il va avoir en face de lui quelqu'un de revanchard face à qui il a gagné, et je ne suis pas sûr, et ça recoupe ce qu'on se disait à la pub, qu'il ait la capacité physique et psychologique d'aller jusqu'au bout. Je parle de force mentale.
Capacité physique, Et pourtant, il a mis le paquet sur les propositions. Alors, vous parliez effectivement de les attaques contre l'industrie agroalimentaire. Il dit relever le taux d'imposition des entreprises, taxer les milliardaires à hauteur de 25%, augmenter l'impôt minimum sur les sociétés au moins 21%, et j'en passe des meilleurs. Voilà, au crédit d'impôt annuel pour léser les Américains face au coût du logement.
Il y a la question de la majorité aussi s'il venait à être élu.
Mais il sait très bien, exactement, il sait très bien qu'il n'aura pas la majorité forcément au Congrès américain pour faire passer tout ça.
Oui, non, c'est assez clair. Déjà, la taxe minimale sur les sociétés...
qu'il n'a pas réussi à faire passer.
Exactement. Ouais. Donc, c'est donc une taxe sur les milliardaires. On imagine que ce serait pas possible. Bon, après, ce qui est vrai, c'est que l'inflation baisse.
Le discours des éditorialistes, c'est un discours volontaire, optimiste, qui tranche le pessimisme et le catastrophe de Trump.
Faut mettre à son crédit que quand même, l'économie va très bien.
Ouais.
Alors, c'est vrai qu'on dit l'inflation baisse. C'est comme en France. L'inflation baisse, mais les prix restent élevés. Donc, évidemment, les gens ont du mal à le ressentir. Et puis, aux États-Unis, il y a une grosse différence avec nos pays européens, c'est que le coût du logement continue à augmenter. C'est-à-dire qu'il y a une composante de l'indice des prix, c'est les loyers, qui ont augmenté beaucoup plus que chez nous, et qui continuent à augmenter, en fait. Donc, les gens voient ça, c'est quand même un tiers de leur budget. Donc, ça, effectivement, je pense que, comme vous l'avez dit, pour trouver un emploi, trouver un logement, c'est absolument central. Mais c'est vrai que c'est... Et puis, comme je suis entièrement d'accord avec le fait qu'en fait le temps qu'il a eu est très très faible, donc il s'est engagé dans une politique de réindustrialisation qui commence à porter ses fruits, mais il n'y a pas de miracle, c'est des politiques qui prennent du temps. Les États-Unis entre Bush et Obama sont passés de 18 millions d'emplois industriels à en gros 12 millions. Là ils ont augmenté de 200 000 sous Biden. C'est une réindustrialisation, mais c'est très lent. C'est comme chez nous. En fait, c'est vraiment des politiques de long terme. Donc, c'est vrai qu'ils sont engagés dans une politique qui, à mon avis, est une très bonne politique. Mais avant d'en voir les fruits sur les Américains qui retrouvent un emploi, ceux qui sont découragés sur le marché du travail, il va falloir un moment.
Xavier.
Oui, il y avait les deux slogans. On sent quand même que Joe Biden est dans le sillage de Donald Trump, puisque Donald Trump c'est Make America Great Again et Joe Biden c'est Make America Great Again. Et je pense que le sentiment des Américains est assez confus aujourd'hui, notamment avec ce qui s'est passé en Afghanistan, au fond c'est une société qui est lasse de beaucoup de choses, qui vieillit comme beaucoup de sociétés occidentales, qui est lasse des guerres menées depuis le 11 septembre. qui hélas un peu peut-être aussi d'une forme d'hyper société de consommation, en tout cas qui s'interroge, qui hélas des tensions. On retrouve des tensions ethniques d'une certaine façon quand on pense que l'espagnol sera la première langue, si j'ose dire, parler aux États-Unis d'ici une vingtaine d'années, peut-être même plus court. Donc il y a une vraie interrogation sociétale de la classe dite blanche, protestante. Et donc ça, je ne suis pas sûr qu'il ait eu les moyens d'y répondre. Donc il a fait des urgences économiques, il a vu le conflit de moyen terme avec la Chine, qu'il fallait rebalancer des choses. Il a vu les disruptions sur les chaînes de valeur, notamment industriel, donc qui a imposé un certain nombre de choses. Ouais. Mais on voit bien qu'il est piégé. Reprenons sur la géopolitique. Tu veux aller, mais prenons.
Oui, l'Ukraine.
La grande annonce qu'il fait hier, c'est qu'il a demandé à la marine américaine de faire un port façon 6 juin 1944, un port au large de la bande de Gaza, pour pouvoir. Parce que c'est vrai qu'on est dans une situation complètement démente. Quand tu penses que des avions français qui parachutent de l'aide alimentaire aux réfugiés, si j'ose dire, aux populations de la bande de Gaza, parce qu'ils n'ont pas accès du point de vue terrestre. Ouais. Donc là, on voit bien qu'il y a toute une série de. On voit bien qu'il a du mal à faire évoluer Benjamin Netanyahou.
Conflit qui lui fait beaucoup de mal.
Voilà,
oui,
c'est ça. Il n'a pas tout à fait, dans son discours d'hier, les éléments de réponse. Et la société américaine se fragmente aussi sur ce type de sujet. Donc c'est compliqué pour un président sortant, surtout comme tu le disais, qu'il y a un congrès qui va lui échapper sans doute.
Je cite ce qu'il disait sur la Chine. Il disait franchement, malgré ses discours musclés sur la Chine, mon prédécesseur n'a jamais eu l'idée de faire quoi que ce soit de ce genre.
Là où il est audacieux, c'est qu'il veut une guerre mais sans conflit.
Samuel, ouais.
Voilà, une guerre sans conflit avec
une guerre
la Chine,
sans conflit,
je trouve ça, je trouve le concept un peu particulier.
François
Et de ce genre, ça se référait au fait qu'il ait interdit les exportations du matériel de pointe, et il a dit, même Trump n'a jamais osé faire ça, donc il essaye d'être vraiment dans la surenchère, même sur la Chine, par rapport à Trump, c'est assez intéressant.
Bon, il reste 6, 7, 8 mois de campagne, voilà. Vous avez une petite idée qui continue à dire, il continue de penser que ça ne sera pas Trump-Biden le 5 novembre.
Non, je pense qu'on va avoir des surprises. Qu'on va avoir des surprises. Je pense que pour l'instant, les acteurs, c'est trop prévisible.
Ni Trump, ni Biden, alors.
On pourrait avoir quelque chose de très surprenant, absolument. On pourrait peut-être même avoir deux femmes.
Oui.
On pourrait même avoir deux femmes. C'est pas du tout ce que disent aujourd'hui Nikki Haley du côté républicain. Alors, il faudrait qu'il se passe des choses qui altèrent profondément. Non, pas les résultats des primaires, mais qui altèrent profondément le statut juridique de Donald Trump. Et du côté de Joe Biden, il y a peut-être un moment une faiblesse qui lui apparaîtra, et puis des sondages qui lui diront qu'il est en train de perdre la partie de l'opinion publique. Et à ce moment-là, il y a l'hypothétique. C'est vraiment une rumeur de comptoir, si j'ose dire. Ben Michelle Obama, puisqu'il semblerait que autour de
qu'il voulait pas y aller, Obama.
Oui, mais pour quelqu'un qui ne veut pas y aller, manifestement, il y a beaucoup de monde qui sont.
Samuel, un dernier mot.
Très rapidement, je vais me faire l'avocat du diable avec une petite anecdote. Il me semble qu'il y a quelques années en arrière, alors un grand nombre d'années, il y a eu un candidat à l'élection présidentielle américaine qui s'est présenté depuis sa cellule de prison.
Donc, oui, c'est pas du tout impossible, absolument.
J'ai du mal à. Enfin, sur Trump, je pense pas que ça sera sur le côté juridique. Je pense que ça peut être ailleurs, mais je ne sais pas quoi. Et l'autre point, pour revenir à ce que vous disiez, j'ai du mal à voir émerger les hommes et les femmes providentielles pour remplacer les deux qu'on a aujourd'hui. Bien
sûr. Peut-être un peu illusoire de faire des pronostics à 8 mois du Conseil européen. L'histoire nous l'a prouvé, qu'en général, que voilà. Entre ce qui se passe en janvier, février, mars et le 5 novembre, c'est un petit peu différent. Justement, nous sommes le 8 mars, Journée internationale des droits de la femme. Transition toute trouvée. Le gouvernement a présenté à cette occasion les derniers chiffres de l'index professionnel pour 2023. Bonsoir Camille Bourg.
Bonsoir Guillaume.
Ce que nous disent ces chiffres, c'est que les entreprises stagnent en matière d'égalité ou plutôt d'inégalité salariale entre les femmes et les hommes, Camille.
Oui, effectivement, Guillaume, c'est ce que nous dit cet index de l'égalité professionnelle créé en 2018 par le gouvernement de l'époque qui permet de mesurer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Une note moyenne déclarée qui se maintient effectivement au niveau constaté en 2023, à savoir 88 sur 100. 98% des entreprises doivent encore produire des efforts. C'est ce que précise le ministère du Travail, puisque seuls 2% des entreprises obtiennent la note maximale 200 cette année. un index qui concerne, il faut le préciser, toutes les entreprises de plus de 50 salariés et elles sont cette année un peu plus nombreuses à avoir publié leurs notes. Alors, quels sont les critères pris en compte? Il y en a 5. L'écart de rémunération femmes-hommes qui représente 40 points, l'écart dans les augmentations annuelles 20 points, l'écart dans les promotions 15 points, les augmentations au retour de congé maternité 15 points et enfin la part des femmes dans les plus de 10 gros salaires, dans les 10 plus gros salaires de 10 points. Si la note globale est inférieure à 75 sur 100, l'entreprise doit prendre des mesures correctives dans les 3 ans, sous peine de pénalités financières pouvant aller jusqu'à 1% de la masse salariale. Cela concerne cette année 4% des entreprises contre 5% en 2023. Dans le détail, plus de 6% des entreprises obtiennent la pire note, c'est-à-dire 0, concernant l'indicateur relatif aux augmentations au retour de congé maternité. Et enfin, la parité dans les 10 meilleures rémunérations stagne quant à elle avec une note de 5 sur 10.
Merci beaucoup Camille. Camille Bourg avec nous sur BFM Business. Je ne sais pas quel commentaire vous avez à faire sur ces chiffres. Rien de nouveau sur le soleil, malheureusement. Samuel, comment est-ce que vous regardez ces chiffres?
Au moins loué qu'il y a eu...
L'index, on est bien noté quand on publie les résultats internes.
Le 1er mars.
Ce qui n'est pas une fin en soi, malheureusement.
Non, il y a eu des progrès sur les dernières années. Après 2024-2023, ça stagne. Moi, ce qui m'a interpellé en regardant le premier JT de l'émission, chiffre que je n'avais pas, c'est 42 pénalités depuis 2019, ça me semble relativement peu. Et après, j'ai envie de vous faire un parallèle avec ma prime Rénov, c'est le manque de clarté. Le manque de clarté sur l'index, alors on a fixé un objectif à 2027 pour avoir quelque chose de plus consistant. C'est bien, c'est nécessaire. Et puis après, sur le reste, j'ai envie de dire que... Ah oui, voilà, c'est ça. La France, 21e sur 27 dans l'Union européenne. Alors j'ai envie de vous dire que sur tous les types de classements auxquels on a affaire, on est plutôt stable parce qu'on est à chaque fois parmi les 20e. C'est inquiétant. Donc ça montre qu'on a encore une grosse marge de progression en dépit de tout le travail qui a été fait ces dernières années. Et puis après, aux entreprises de prendre leurs responsabilités.
Ça me rappelle cette phrase d'Emmanuel Le Chip, c'est Excel qui gouverne en France. Voilà, c'est un peu l'illustration de ça. Comment est-ce que vous regardez ces chiffres qui n'amènent rien de nouveau d'une année à l'autre, finalement, François?
Je sais pas si sur ce plateau on est très bien placé pour.
Eh oui, su quelque part.
On est la preuve. Alors,
ce soir, voilà.
Est-ce qu'on va augmenter le score de BFM Business avec... Donc, effectivement, je pense que l'écart. C'est toujours difficile de regarder les chiffres de manière froide comme ça parce que il y a un écart de rémunération très fort dans le secteur privé de l'ordre de 25%. Évidemment, quand on ramène au même nombre d'heures de travail et au même nombre de jours de travail dans une année, ça baisse un petit peu, ça baisse à 15%. Et puis quand on prend en compte le secteur et les travaux que les hommes versus les femmes font de manière plus majoritaire, on tombe à 4% en général. Donc c'est une étude de l'INSEE qui montre ça. Donc on est toujours à 4%, mais voilà. Donc c'est ce qui est vrai avant tout, c'est que les femmes sont plutôt dans des travaux qui sont moins bien payés. Oui. Ou inversement, on pourrait dire les métiers qu'exercent les femmes sont moins rémunérateurs. Et c'est là où c'est la limite un petit peu de l'analyse économique avec les chiffres, etc. C'est que en fait les deux sont un petit peu liés. C'est-à-dire si ces métiers peut-être sont un petit peu déconsidérés, ça peut être éventuellement dû au fait qu'il y a plus de femmes. Et ça montre aussi le sexisme de la société française.
Sempiternel plafond de verre, vous n'aviez pas trop là.
Oui, non, c'est vrai qu'on est aux confins de la représentation, des représentations sociologiques, culturelles, mais il ne faut pas minorer quand même la forte progression qu'il y a, la dynamique qu'il y a depuis une quarantaine d'années.
Lois,
et la France n'a pas à rougir.
Bien sûr, bien.
La France a un taux de participation des femmes au marché du travail qui est parmi les meilleurs de l'Union européenne. On doit être le quatrième pays derrière la Lituanie, la Lettonie et le Portugal. On est le quatrième. On est nettement meilleur, par exemple, que l'Allemagne. Donc on n'a pas à rougir. Non, là où on a à rougir, si j'ose dire, c'est sur les représentations, c'est-à-dire sur les fonctions d'incarnation du pouvoir. Peut-être là ce soir, bon, mais c'est fortuit parce que tous les jours tu fais l'émission avec Audrey Tcherkov.
Nous avions des familles, on en aura la semaine prochaine.
Et tu vois, par exemple, il y a une étude qui avait été faite par l'INSEE il y a quelque temps qui a regardé les discriminations hommes-femmes par centile de rémunération. Si tu prends du premier centile au 99e centile, le dernier centile, on ne regarde pas, c'est les rémunérations les plus élevées. Tu prends donc du premier centile au 99e centile. L'écart de salaire entre les hommes et les femmes, il est de un peu plus de 10%, 10,8, 10,9. Tu rajoutes le dernier centile, tu passes à un écart de salaire entre les hommes et les femmes, t'entends bien, qui va prendre quasiment 5 points. le dernier centile de contribution d'écart de rémunération va générer, va doubler l'écart homme-femme. Donc ça veut dire que là, typiquement, on a un problème d'incarnation de fonctions de pouvoir au sommet du monde économique, pas uniquement économique, scientifique et autres. Il y a un paradoxe. Je l'ai dit une fois, les femmes ont les jeunes filles ont des meilleurs résultats au baccalauréat, y compris dans les filières scientifiques. Oui. Elles ont des meilleures notes. Donc, il n'y a pas de discussion.
Et elles ne vont pas dans la tech.
Et voilà, c'est ça. Elles ne vont pas parce qu'il y a des modes de représentation. Oui, donc, il nous manque des Marie Curie, il nous manque des Claudie Ignoret, la fameuse qui a été astronaute, qui est partie dans... Il nous manque ce type d'incarnation que les jeunes filles puissent se sentir la motivation d'accéder à ces fonctions dites de représentation. Oui. Et donc, ça participera du rééquilibrage entre les hommes et les femmes, et la France peut y arriver.
Voilà pour ces chiffres de l'index professionnel 2023, donc présenté ce matin pour le gouvernement. On a peu de temps, mais je vous refais écouter Maryse Léon, secrétaire générale de la CFDT, qui a fait passer un message un petit peu ambigu ce matin. Elle dit, à quelques mois des JO, alors en gros, on ne veut pas gâcher la fête, elle le dit, mais... Ça serait bien quand même que d'ici là, on entende certaines de nos revendications, si vous voyez ce que je veux dire. Écoutez, Maryse Léon, ce matin.
Ce n'est pas à l'ordre du jour. Pour la CFDT, nous, on est dans le cadre des négociations. Donc, à ce stade, pas de préavis de grève dans les fonctions publiques pour la CFDT. Le temps de la négociation, on avisera au moment de, en fonction de l'avancée des négociations.
Mais vous n'excluez pas ou vous estimez qu'il y a une trêve olympique qui fait qu'on ne doit pas faire grève pendant cette période.
Une négociation, c'est une histoire. Et il faut que les deux parties fassent des efforts. Donc, à ce stade... C'est non. Et pour la CFDT, il n'y a aucune envie de gâcher ce moment festif des Jeux Olympiques. Donc, raison de plus pour que les employeurs et les employeurs publics soient au rendez-vous et fassent des efforts dans le cadre des négociations qui sont ouvertes. Si l'État employeur n'est pas au rendez-vous, rien n'est exclu à ce stade. Je vous dis que la CFDT ne dépose pas de préavis de grève pour la période des JO.
La CGT et FO, on a déjà déposé 30 secondes chacun. Est-ce que ça vous inquiète, tout ça, ces préavis qui sont déposés, pas par la CFDT, mais par d'autres, 30 secondes.
Moi, je pense qu'elle fait une déclaration parce qu'elle elle suit un peu sa base. Je pense qu'au niveau de sa base, ça bouge pas mal. Et donc, elle fait une opération un peu diplomatique pour dire à ses troupes, elle parle plus à ses troupes que, je pense, aux autres interlocuteurs.
Elle peut pas faire moins, quoi.
Voilà, c'est ça. Elle fait le minimum syndical, si j'ose dire.
Samuel.
Les Jeux Olympiques, ça va être le nouveau moyen de pression jusqu'à ce qu'ils aient lieu. C'est le jeu. Moi, j'étais plus intéressé par la position de la CGT, justement, qui, elle, a clairement annoncé que des préavis de grève seront déposés dès début avril, voire même au mois de mai. La fonction publique, ça va être un enjeu. Et ce qui m'a fait sourire à moitié, c'est la proposition de retour à 100% de chômage partiel pour ceux qui seront empêchés de travailler pendant les JO, parce que c'est vrai, il y en aura. Il y a énormément de... Alors, au moins dans le commerce de points de vente qui sont situés sur des sites stratégiques. Donc, il va y avoir de l'empêchement. La région parisienne qui va être bloquée. Je passe sur la hausse du prix du pass Navigo et des tickets de métro pendant ce temps-là. Donc oui, ça va être le nouveau jeu à la mode. Attention aux JO, on ne veut pas gâcher la fête, mais s'il faut,
trois petits
on y
points. Voilà, un petit mot là-dessus, François, non?
Non, enfin, juste guerre, en ce moment, les transports parisiens ne fonctionnent pas très bien, le métro, donc ça, peut-être un petit... Non, mais c'est assez étonnant, ça fait depuis le Covid, en gros, que c'est jamais vraiment revenu à la normale. Oui. Donc, je sais pas très bien pour les JO, mais en tout cas, actuellement, ça marche pas très bien.
Après Covid, on était très peu dans le métro.
Voilà.
Donc, on a gardé un bon souvenir.
Le métro s'est habitué.
Mais là, c'est revenu.
Pour savoir du monde, c'était plus difficile.
Mmh. Allez, 3 minutes encore, c'est l'heure de l'extra time, comme tous les soirs. Vos humeurs du soir, 30 secondes. Coup de gueule ou coup de cœur, comme tous les soirs, c'est la règle de cette émission. Bah, François, tiens, puisque vous aviez la main, est-ce que vous voulez commencer? Allez, 30 secondes. Pour vous, mon cher François, on vous écoute.
Juste un mot sur la politique budgétaire allemande, qui est toujours, comme toujours, est austéritaire. Mais cette fois-ci, elle est austéritaire alors même qu'ils sont en train de rentrer en récession, qu'en 2023, ils ont fait moins 0,2, qu'en 2024, ils s'attendent à faire 0,3, même peut-être encore moins. Et donc, on disait jusqu'ici, ils baissent leur dette pour dépenser quand ça ira mal. Là, ça va mal et ils baissent pas. On a les chiffres de l'excédent commercial allemand qui a énormément augmenté ce mois-ci. Donc, ça veut dire qu'ils sont toujours dans une logique de compression de la demande. Et ça, c'est très mauvais au niveau européen parce que ça nous force, nous Français en particulier, à faire de l'austérité, je pense.
Okay.
Je pensais que ça allait s'arrêter.
Moi aussi, mais bon, on est dans les 30 secondes, vous avez été parfait sur le timing. Xavier Patrolin, 30 secondes pour vous, Xavier.
Je voudrais rendre, puisque c'est la journée de la femme, je voudrais rendre hommage à trois jeunes alpinistes françaises qui ont fait une première mondiale. du côté de la Patagonie. Elles ont fait un 3000 mètres, donc c'était de l'alpinisme et de la varap, si j'ose dire. Et c'était en niveau difficulté, c'est 7A, 7A comme A comme abominable. Donc c'était vraiment une pente, enfin un dévers incroyable de 1000 mètres. Et elles ont réussi à le franchir, trois filles. Trois françaises, et c'est une première mondiale sur une voie qui était complètement dépitonnée, donc sans piton. Donc elles ont fait, et il faut savoir qu'il y a une dizaine de cordées qui ont fait franchir ce piton, enfin cette montagne, depuis une douzaine d'années. C'est donc c'est vraiment un exploit de très haute catégorie, de très haute performance.
C'est une sacrée performance, c'est le moins qu'on peut se dire, effectivement. Oui. Samuel Botton, 30 secondes pour votre coup de gueule ou coup de cœur ce soir, Samuel.
Hommage à Akira Toriyama qui est mort ce matin, donc c'est le créateur de Dr. Slump et plus particulièrement du manga Dragon Ball. On parle du manga le plus vendu au monde puisqu'il s'est écoulé à 290 millions d'exemplaires. Et du coup, faire un parallèle avec la France, puisque la France est le deuxième pays consommateur de manga derrière le Japon.
C'est vrai. C'est vrai.
Un livre sur sept vendu, c'est un manga. On parle de 380 millions d'euros de retombées économiques sur ce volet-là. Et puis surtout, c'est l'achat numéro un du Pass Culture. Oui, tout à fait.
Le manga
Pass Culture, les jeunes achètent des mangas via le Pass Culture, c'est le plus gros achat.
Allez voir comment ça se passe le samedi après-midi à la Fnac, hein, ouais. Les gamins qui veulent.
Il a donné naissance à toute une génération de mangaka, donc à One Piece, Naruto et tout ce qui se fait de mieux et ce qui se vend le plus aujourd'hui. Et puis un dernier point, le CNIEL, donc le Comité National Interprofessionnel du Lait, lui-même a produit son propre manga pour faire connaître ses initiatives et le travail autour du lait.
Extraordinaire.
Donc ça montre que son influence a largement dépassé les frontières.
Salons sa mémoire. Merci messieurs d'être venus ce soir. Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital, François Girolf, économiste à l'OFCE, Samuel Botton, expert en communication. Merci messieurs, à très vite avec plaisir sur BFM Business. 18h57, c'est l'explorateur Jean-Louis Etienne qui est l'invité de Frédéric Mazzella dans un instant dans Les Pionniers. On se retrouve lundi 18h pour Nouvelles Aventures et comme le chantait fort joliment Catherine Ringer aujourd'hui.
Aux âmes, citoyens, citoyennes, formons nos bataillons, marchons et chantons cette loi pure dans la Constitution.
Good Evening Business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.